Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro, je vous parle en ce 28 avril. Les séries éliminatoires de la Coupe Stanley qui se poursuivent dans la Ligue nationale de hockey. On va parler de ça aujourd'hui. Bien évidemment, dans cet épisode de la tasse de café, on va parler de ce qui se passe avec les Canadiens de Montréal, défaite crève-cœur hier contre les Capitals, qui font que Washington s'empare d'une avance de 3-1 dans la série. Perte aussi du défenseur Alex Carrier. On verra bien s'il va être capable de jouer mercredi, mais bon, pour l'instant, ça n'augurait rien de bon. Donc, les Canadiens qui sont en retard, on va parler de tout ça avec Jean-François Chaumont et Guillaume Lepage qui vont joindre moi dans cet épisode dans quelques minutes. On va parler aussi de la série des Sénateurs d'Ottawa avec les Maple Leafs qui retient l'attention. Donc, on va parler avec Zachary Mercier qui est journaliste du côté du droit à Ottawa. Donc, ça va être ça. Écoutez, le reste des séries éliminatoires, comme je dis, visiter, parce que le balado ne peut pas durer 4 heures non plus, donc on va se concentrer sur ces deux séries-là. Mais si vous voulez savoir un peu, bon, il n'y a toujours pas de série terminée présentement, donc rendez-vous sur le LNH.com pour vous renseigner, en apprendre plus sur ce qui se passe dans les diverses séries. Hein, les Oilers qui sont soudainement de retour dans la course contre les Kings, hein, parier contre Connor McDavid et Leon Draisaitl, c'est peut-être pas une bonne idée. Il y en a qui est en train de le faire, mais là, bon, les deux qui sont en train de mettre les Oilers sur leurs épaules. Au Manitoba, bon, ben Connor Hellebuyck qui commence à inquiéter un peu comme l'année dernière. Est-ce qu'il va être capable de se ressaisir, mener les Jets à la deuxième ronde contre les Blues? C'est pas assuré. D'autres séries intéressantes, les Stars qui s'accrochent aussi. Du bon hockey, on a droit à du très bon hockey depuis le début des séries éliminatoires. Donc, je vous disais, vous pouvez aller sur le LNH.com pour lire les textes, les divers textes de tous nos correspondants, tous nos journalistes un peu partout à travers l'Amérique du Nord. Pour le balado, ben écoutez, comme je vous dis, comme je vous suggère toujours, si vous l'écoutez sur le site de LNH.com, ben sachez qu'on est sur à peu près toutes les plateformes d'écoute qui peuvent exister. Faites une recherche, la tasse de café, vous allez nous trouver, tasse de café LNH. Faites Apple, sur Spotify, sur YouTube, Music, entre autres, on est là-dessus. Il y en a d'autres aussi, Prime Music, Amazon Music, iHeart, là. Donc peu importe où vous écoutez votre balado, on est probablement là. Abonnez-vous, comme ça vous êtes certain de ne jamais manquer le moindre épisode. Alors, pour discuter de cette série entre les Canadiens et les Capitals, j'ai avec moi mes deux collègues habituels, JF Chaumont. Salut, JF.
Bon matin, Nick.
Et Guillaume Lepage. Salut, Guillaume.
Bonjour, messieurs.
Je regarde vos deux visages un matin, visiblement dur réveil. Ça n'a pas été facile cette nuit de dormir, d'aller chercher quelques heures. Mais s'il y en a un qui a un dur réveil ce matin, c'est Alexandre Carrier chez les Canadiens qui... il s'est retrouvé du mauvais côté des coups d'épaule et des coups de jambe, peu importe, parce que le contact a été là des Capitals hier. Et c'est ce qui a tout fait déraper chez le tricolore hier dans un match où on s'en tirait très bien contre l'équipe championne dans l'Est.
Mais il faut rester prudent parce qu'une bonne nuit de sommeil, parfois, peut être très réparatrice. Parlez-en à Logan Thompson, qui est devenu le miraculé chez les Capitals, qui est de
deux nuits de sommeil dans son cas.
Deux nuits, mais le CH profite de deux jours avant le prochain match. Sauf que, dans les faits, Alexandre Carrier a vu des étoiles. Ouais. Il s'est relevé assez rapidement de la mise en échec de Tom Wilson, a patiné vers le banc. N'a pas fait de présence après ça, même si on a sorti la stratégie magique de 1974, c'est-à-dire un sac de glace dans le cou, ça n'a pas réglé le problème d'Alexandre Carrier. On a vu quelques images de TVA Sports et de CBC où Carrier avait les yeux un petit peu flous. Donc, sans dire assurément une commotion cérébrale, Jakub Dobesh qui ne veut pas trop parler parce qu'il est une recrue, a quand même dit que Carrier patinait pour traverser la glace malgré une commotion, aurait aimé voir les arbitres siffler sur le jeu. Ça n'a pas été le cas. Puis c'est 13 secondes plus tard que Brendan Duhaime crée l'égalité. Ça devient 2-2. À ce moment-là, le CH devait finir le match avec 5 défenseurs. Matheson avait déjà énormément de minutes dans le quart. C'était un petit peu écrit dans le ciel que les Caps étaient pour revenir. Puis à 5 contre 5, les Capitals ont dominé ce quatrième match du début à la fin. Le résultat qu'on connaît, Andrew Mangiapane, qui marque le but vainqueur, qui fait encore une fois le bonheur des représentants de Radio-Canada, puisque c'est un autre collègue de Radio-Canada qui gagne le but gagnant. Richard Labbé dirait que c'est nos taxes encore une fois, qui s'en vont du côté de Radio-Can. Mais non, victoire des Caps 5-2. Puis là, il y a un gros point d'interrogation. Est-ce que tu peux survivre à cette série sans ton gardien numéro 1, Samuel Montembeau, sans ton défenseur numéro 2, numéro 3, Alexandre Carrier? Puis Carrier, c'est également un joueur qui est ciblé depuis le début de cette série. Les Caps l'ont frappé souvent. Juste en première période ou en deuxième, Alexander Ovechkin, qui lui aussi fonce comme un train. Carrier qui évite le gros de la mise en échec, mais quand même se fait mal à la cheville, revient au jeu. Je regardais là, avant qu'on rentre en onde, les mises en échec encaissées depuis le début des séries. Alexandre Carrier, c'est 21 fois qu'il s'est fait frapper. C'est le quatrième rang parmi tous les joueurs de la Ligue nationale. Et Caden Goulet est au troisième rang à 22 mises en échec encaissées. Donc, ça finit par payer les mises en échec des gros attaquants des Capitals.
Mais on l'avait dit que ça allait être une série physique, puis Washington est un club équipé pour brasser. Mais l'impact d'un Tom Wilson, après le brouhaha dans le banc, hein, avec Josh Anderson dans le deuxième match, dans le troisième match, on a peut-être fait un peu sortir Wilson de ses gonds puis de ce qu'il est dans le troisième match. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Guillaume? Tu y as parlé. C'est toi, Guillaume, je pense, qui a parlé puis que tu as dit, j'aimerais peut-être apprendre à me la fermer. Puis les bottines ont suivi.
Et jouer au hockey. La fermer et jouer au hockey. Puis c'est exactement ce qu'il a fait hier. Il avait dit ça hier matin. Hier soir, c'est exactement ce qu'il a fait. Il n'est pas embarqué vraiment dans le même jeu qu'au troisième match, là, où il s'est mis à parler avec Arber Jacquet dès la période d'échauffement. Puis après ça, ça a été avec Anderson. Puis ça a fini au banc des Capitals. Hier, a réussi.
Par contre, c'était du beau rififi là, au banc de PO. Honnêtement, oui, j'ai pas vu ça. Écoute, depuis que je couvre plus la Ligue nord-américaine de hockey, du brouhaha de la sorte, tout le monde sur la glace.
Je vais dégonfler le tabaloune comme Trevor Van Riemsdyk l'a fait au lendemain de ce match-là. Il dit si la porte avait été fermée, ça aurait juste été quelque chose de normal.
Oui, mais pète pas de ballon. C'était magnifique. Je veux dire, c'était de voir Spencer Carberry s'avancer pour essayer de retenir ses joueurs. Puis soudainement, tu vois les deux monstres qui s'en viennent vers lui. Whoop, qui reculent. Puis whoop, attendez, là. je vais me faire ramasser, moi, là. Mais non, c'est du hockey de série. Il arrive tout le temps des choses comme ça en série. Puis
du bon cinéma, du bon théâtre.
C'était le fun. Moi, j'ai adoré.
Ouais, mais hier, c'est ça, Wilson a décidé qu'il n'embarquait plus dans ce jeu-là.
Ouais.
Il a réussi à rester sur la patinoire tout au long du match, c'est-à-dire qu'il n'a pas écopé de pénalité. Ça, c'est un miracle. Peut-être un petit peu aidé par le livre des règlements un peu plus lousse en séries éliminatoires.
Disons
mais
il a réussi à le faire. Il avait épaté un peu lousse, je pense, à un moment donné, un petit peu mal attaché parce qu'il est tombé facilement. Hein? Je pense que un petit tour de plus de tape aurait peut-être aidé Tom Wilson à ne pas tomber sur la séquence. Mais
je pense que si on lit entre les lignes des doléances de Martin Saint-Louis après le match, on peut comprendre qu'il n'a pas vraiment aimé le fait que certains joueurs des Capitals semblent avoir les jambes un peu fragiles là, quand on s'approche d'eux. Mais Tom Wilson, dans l'ensemble, je pense qu'il a réussi à faire exactement ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire être capable de déranger l'adversaire sans sortir de son match. Frapper comme un train, ses 6 mises en échec, il a mené les Capitals hier à ce chapitre-là. Moi, ce qui m'est revenu en tête, c'est que depuis le match numéro 1, numéro 2, en tout cas, quand on voyait que la robustesse, c'était vraiment l'histoire des Capitals dans cette série-là, les joueurs nous disaient, tu sais, c'est un investissement à long terme. On frappe en début de série, on commence à leur faire mal, puis au final, dans les matchs 4, 5, 6 et 7, bien, ça va finir par payer. Ils vont être tannés de se faire frapper, puis tu sais, le sous-entendu là-dedans, c'est on leur fait mal, puis ça va causer des blessures, ça va causer
ça
des
va
bobos.
Dire,
ils ne seront pas à 100% et tout ça. Là, hier, on a eu, ça a été l'exemple parfait. Là, Carrier qui est sorti de ce match-là, puis l'impact qu'on connaît. Donc, Tom Wilson qui a allumé les siens parce qu'à ce moment-là, le Canadien avait les devants 2-1. La foule était dedans. J'ai eu l'impression que ces 13 secondes-là, la mise en échec, le but qui a suivi, la foule du Centre Bell était sous le choc, le Canadien aussi. Puis tu sais, même si ça a pris 10 minutes aux Capitals pour prendre les devants, on sentait que on était ébranlés là, du côté des Canadiens. On avait perdu Carrier, on devait se débrouiller à 5 défenseurs, dont Harbert Jacquet dans ce lot-là, qui n'a pas été atroce, mais c'est un défenseur que tu n'avais pas dans ta formation partante au premier match. Là, tu te retrouves à devoir le faire jouer beaucoup. Mike Matheson qui entrait dans le territoire de trop de minutes. On le connaît, on commence à le connaître. Quand il est utilisé avec parcimonie, il peut avoir un excellent match. Hier, il y avait un excellent match, mais quand même, on y en a donné beaucoup, beaucoup. Ça cause éventuellement des erreurs mentales,
Beaucoup à des avantages numériques aussi.
Beaucoup, là, juste pour placer un chiffre, c'était 10 minutes 50 après une période et 21 minutes après deux périodes. Donc, ça dépasse la définition de beaucoup. Puis le match à 28, là.
C'est causé, entre autres, par Alexandre Carrier, qui allait faire un tour au vestiaire après la mise en échec de Ovechkin. Puis en troisième période, on connaît l'histoire. On le sentait venir, puis j'ai l'impression que, tu sais, je ne veux pas être défaitiste ou quoi que ce soit, mais cette mise en échec-là a non seulement changé ce match-là, mais je pense que ça a peut-être changé la série aussi. Et là, on retourne à Washington. Le Canadien est éclopé. Hier, Martin Saint-Louis, je comprends qu'il voulait lancer un message aux officiels, mais disait, tu sais, je ne sais pas quoi dire à mes joueurs, dans le sens où on sentait vraiment que ça avait fait mal, cette défaite-là. C'est pas une défaite qui est banale, je pense. Mais la bonne nouvelle, c'est que bon, il y a deux matchs avant le match numéro 5. On peut retrouver nos esprits. Ouais, deux jours de repos. Samuel Montembeau, on a dit qu'il était réévalué au quotidien. Ça donne deux jours de plus. Est-ce qu'il va être à son poste? Peut-être. Est-ce que ça va changer grand-chose? Je sais pas, parce que Dobesh a été bon. Si on enlève le premier but qui a été catastrophique, disons, mais
il y a eu des hauts et des bas. Dobesh a réalisé des arrêts.
C'est fidèle à Jakub Dobesh.
C'est ça.
Mais c'est ça. Je veux pas être défaitiste, mais j'ai l'impression que ça a fait mal, puis ça va être dur de se relever de ça.
Puis les Capitals, Spencer Carberry avait quand même lancé un message à ses deux premiers trios en disant que dans le troisième match, il n'avait pas été bon. Il voulait les voir rebondir. Résultat, Strome a eu un meilleur match. C'est Strome qui marque le premier but. Le deuxième trio, Wilson, on a parlé de son intensité. C'est 6 mises en échec. Pierre-Luc Dubois aussi est capable d'être intense. Connor McMichael, même si ce n'est pas le plus gros, est fatiguant après les sifflets. Donc, les deux premiers trios ont mieux joué. Résultat, on se transporte vers Washington. Le Carberry va avoir droit au dernier changement. Va pouvoir encore mieux utiliser ses armes offensives. Donc, avec Montembeau ou avec Dobesh, la mission sera difficile. Surtout, l'absence d'Alexandre Carrier peut faire aussi mal, sinon plus mal, que la perte de Samuel Montembeau.
Oui, parce qu'on se souvient, quand Carrier est arrivé de Nashville, comment tout le monde est tombé dans son siège.
Dans la bonne chaise.
Là, la chaise, on vient de jouer à la chaise musicale, puis qu'est-ce qui arrive quand tu joues à la chaise musicale, puis tu n'es pas dans la bonne chaise, tu tombes-tu derrière. Ça se pourrait bien que c'est ce qui arrive aux Canadiens dès mercredi.
Ça va être une défensive, une brigade défensive très, très inexpérimentée. Puis avec le dernier changement, les Capitals ont le beau jeu. Tu sais, le dernier changement, on dira ce qu'on voudra, mais à Washington, le Canadien a été dans le coup, mais n'a pas été en mesure d'établir des bonnes séquences offensives à répétition comme il l'a fait dans le troisième match à Montréal. Bon, ça n'a pas été le cas au quatrième match. Ça a été un petit peu plus discret de ce côté-là, mais j'ai l'impression que là, toutes les cartes sont dans le jeu des Capitals pour le cinquième match. Puis ça prendrait, je dirais pas un miracle, là, mais il faudrait que tout tombe en place pour les Canadiens pour aller chercher cette victoire-là. Mais on le disait hier, les Canadiens, chaque fois qu'on les a comptés pour battu cette saison, pour mort, ils trouvent un moyen de ressusciter à la manière de Logan Thompson dans cette série-là. Donc, j'ai hâte de voir la manière de répondre au cinquième match.
D'ailleurs, Guillaume, en parlant de Thompson, tu as l'impression que les Capitals ont peut-être essayé de vous en jouer une petite samedi par rapport à son état de santé. Hein?
Oui, ça ressemble à du grand théâtre de la part des Capitals de Washington. En série, il faut se méfier d'un peu tout. Puis j'ai l'impression que là, en rétrospective, on regarde ça et on se dit « Ouais, on a peut-être été utilisé par les Capitals. »
Entourloupiné.
Exactement, parce que samedi, il faut savoir que les Capitals tenaient un entraînement optionnel au Centre Bell. Donc, on se présente sur place. C'est le lendemain du match où Logan Thompson quitte sur une jambe, perd l'équilibre en sortant. Tout le monde à Montréal, dans la Ligue nationale, se dit « c'est terminé pour Thompson pour cette série-là ». Non seulement ça, mais probablement les séries éliminatoires en entier, parce que là, on parle du genou qui a lâché, puis le ACL, MCL, tout ce que tu voudras, c'est la catastrophe. On se présente au Centre Bell. On regarde l'entraînement, il y a 11 joueurs, Charlie Lindgren est là, le gardien, le troisième gardien, que son nom, mais je sais pas, Clay Stevenson, je crois, est sur la patinoire, mais pas de Logan Thompson, personne n'est surpris. Moi, je fais la navette entre la salle des médias, la patinoire pour observer l'entraînement. Et il faut savoir que dans ce chemin-là, on passe devant le vestiaire des Capitals. Mm-hmm. Fait que je jette un œil distrait quand je passe près du vestiaire, très subtil, juste pour voir s'il n'est pas dans les parages, s'il n'est pas en train de s'étirer ou quoi que ce soit. Et puis, je tombe presque face à face avec lui au couloir qui mène vers l'autobus de l'équipe. Et là, je remarque qu'il marche comme toi et moi, sans problème, pas d'attelle, pas de béquille. Tout a l'air de bien aller. Fait que ça sème un petit doute dans mon esprit. Je me dis, bon, c'est pas le genou, clairement, parce que de la manière dont on l'a vu sortir, on se dit, tu sais, moi, je croyais qu'on allait le voir en béquille ou au moins avec une grosse attelle là, que les joueurs portent habituellement. Donc là, je me suis dit, bon, OK, c'est pas le genou, c'est peut-être une commotion. On sait qu'il a été incommodé par une commotion et tout ça. Fait que ça, c'est invisible. On peut pas le savoir, mais je savais que c'était pas le genou. Donc là, je retourne vers la salle des médias. On attend Spencer Carberry parce qu'on s'est fait dire c'est seulement deux joueurs qui sont disponibles ce matin. Trevor Van Riemsdyk, Taylor Radish. On a fait les entrevues avec les deux joueurs. On attend l'entraîneur. On pense qu'il va falloir se débrouiller avec ça pour aujourd'hui. Et là, le directeur des communications des Capitals part du vestiaire des Capitals qui est à l'autre extrémité de la glace, vient nous chercher dans la salle de l'entraîneur et dit « Hey, vous voulez plus parler à Charlie Lindgren? Il sort de la patinoire bientôt, on va le rendre disponible aux médias. » Là, j'étais comme « Est-ce qu'on est en train de jouer dans un mauvais film? Est-ce que les Capitals veulent justement qu'on mette du gaz sur le narratif que Charlie Lindgren va jouer au match numéro 4? »
Nuire à la préparation du CH indirectement.
Ouais, c'est ça. C'est les petites mind games. Là, je pense pas que ça change grand-chose dans la préparation des Canadiens pour le match suivant. Mais quoi qu'il en soit, on retourne dans le vestiaire. Charlie Lindgren nous parle pendant 5-6 minutes de jouer au Centre Bell. Puis là, le gros moment. Puis il est prêt. Il a travaillé pour ça toute sa carrière et tout. Blablabla.
On s'entend, là, la dernière affaire qu'un PR fait habituellement, c'est de placer son gardien dans une situation où il va dire ça va être quoi jouer contre l'équipe qui croyait pas en lui en séries éliminatoires. Tu fais jamais ça, là. Tu donnes le troisième gardien habituellement en plus. Là,
non, quand ils ont dit deux joueurs, c'était Trevor Van Riemsdyk, Taylor Radish, on s'est dit, bon, on n'obtiendra rien de bon de la part des Capitals aujourd'hui parce qu'on garde le secret sur tout ce qui entoure les gardiens, la blessure à Thompson et tout. Donc, j'ai trouvé ça très, très louche à ce moment-là. Puis d'ailleurs, mon texte, je suis pas allé complètement sur Lindgren et son opportunité de jouer au Centre Bell parce que j'avais un peu le recul de me dire « OK, j'ai vu Thompson marcher. Il y a peut-être des chances aussi. » Donc, je suis resté très prudent. Puis bon, ça s'est avéré le lendemain matin. Thompson saute sur la patinoire, s'entraîne comme si rien n'était. J'ai mis la situation inverse, là, puis je me suis dit « Jamais le Canadien serait venu nous chercher dans une salle de travail pour dire « Hey, Jakub Dobesh, je vais prendre la relève au prochain match. Tenez, venez lui parler pendant 5-10 minutes en scrum. » Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit « Bon, on est en train peut-être de se faire utiliser par les Capitals. » Donc, c'est de bonne guerre. C'est des bonnes anecdotes de séries éliminatoires parce qu'en saison, on s'entend que ça joue moins sur les secrets et tout ça. Donc, à l'avenir, comme j'ai dit à GF, je vais être très, très prudent quand les Capitals vont nous offrir des joueurs en cadeau comme ça.
Ah, oui, c'est ça.
Mais s'il y a un aspect positif, quand même, les unités spéciales, depuis la fameuse mystérieuse blessure au haut du corps de Patrick Laine, C'est 4 buts pour le CH dans les deux derniers matchs. Puis hier, on a eu droit à une vision du futur, là, un but d'Ivan Demidov, un but de Juraj Slafkovský sur des passes d'Ivan Demidov et de Lane Hudson. Je sens que c'est le type de jeu qu'on va voir souvent dans les prochaines années à Montréal. Hudson, qui a encore 2 passes, qui mine de rien, continue à être le même joueur, même si on élève le jeu en série. Là, Hudson est rendu à quoi? 5 points depuis le début des séries, 5 passes. Slafkovský, qui a marqué à ses 2 matchs à Montréal, qui a quand même rebondi après le match à Washington où il était visiblement ébranlé. Là, il était très triste, très critique envers lui-même. Puis d'ailleurs, quand Tom Wilson fait son geste d'un bébé qui pleure, bien, Tom Wilson regardait Juraj Slafkovský. C'était calculé et voulu de la part du 43. Mais bon, il y a des éléments positifs. Puis en infériorité numérique, le CH dans le 4e match, c'est une performance de 5 en 5. À 5 contre 3 pendant quoi? 44 secondes, je pense. Savard, Matheson, Evans qui ont fait tout un boulot. On verra. Mais c'est la côte, elle est abrupte, disons, pour le CH.
D'ailleurs, je veux juste rajouter, on a tendance à l'oublier dans l'histoire du match parce que là, la mise en échec de Wilson et tout ça, ça a pris tout le plancher. Mais l'avantage numérique que le Canadien a obtenu en début de 3e période, c'est 2-1. Ça fait mal. J'ai l'impression encore plus que... Tu sais, pas encore plus que la mise en échec, là, mais si le Canadien met ça à 3-1 en début de 3e période, le Centre Bell est en feu, puis je pense qu'on s'en retourne à Washington avec une égalité dans cette série-là. Le Canadien n'est pas parvenu à le faire, puis ça c'est venu les hanter par la suite. Donc oui, ça a bien été en général, mais au moment où c'était le temps de planter le... Je dirais pas le dernier clou, parce que 3-1, c'est quand même pas une avance phénoménale, là, mais... d'affecter les Capitals puis de leur porter un dur coup, ben le Canadien n'a pas été en mesure de le faire, puis ça a fait mal ensuite.
On parlait justement de jeu de puissance mis à part à ce moment-là, mais qui a quand même connu du succès, là, les jeunes qui cliquent. On vous annonce que Patrick Laine est en santé pour le prochain match, peut jouer, vous le ramenez pas, parce que non. Le jeu de puissance va mieux, puis à 5 contre 5, Laine, c'est tout sauf une assurance.
Je pense que tu touches pas à la cohésion en ce moment. Même si Oliver Kapanen a très peu joué dans le dernier match, Kapanen, c'est combien de minutes? C'est 91, Kapanen, 4 minutes 38 secondes, 7 présences. Je garde quand même 4 minutes 38 secondes d'Oliver Kapanen plutôt que 4 minutes 38 secondes de Patrick Laine et de certains jeux en mollesse.
Je pense que c'était plus une décision de, tu sais, avec tous les
mais
désavantages
il y a eu beaucoup de
numériques.
C'est ça.
Tu sais, il joue quand même avec des joueurs qui sont employés en désavantage numérique. Fait que peut-être que Martin Saint-Louis a décidé de leur donner un petit break à 5 contre 5, puis Kapanen a été victime de ça. Mais moi, j'aime beaucoup l'équilibre qu'on est allé chercher avec un Kapanen. T'sais, dans le 3e match, on le disait, moi puis GF, ça a permis aux Canadiens de rouler plus régulièrement 4 trios, puis d'être capable d'avoir du temps en zone offensive soutenu, là, ce qui n'était pas le cas avec Patrick Laine. Chaque fois qu'il embarquait sur la patinoire, ça ralentissait le jeu. On se mettait à risque défensivement. Fait que je pense que même s'il est en santé, là, c'est pas une option pour le
Canadien. Dans le cas de Patrick Laine, là, ne patine plus depuis quelques jours. Il n'est pas le seul à cacher des bobos. Donc, Laine, avant le 2e match à Washington, la journée d'entraînement, la veille du match, avait eu une bonne conversation avec Martin Saint-Louis, là, 3 minutes au moins. Puis Saint-Louis semblait lui montrer des jeux en zone offensive, même plaçait son bâton comme un droitier là, pour se placer dans la peau de Patrick Laine. On sentait qu'il y avait une bonne discussion. Puis la façon que Laine a répondu dans le lendemain, je pense qu'il a signé à ce moment-là son arrêt de mort, du moins pour les séries. Je serais très, très, très surpris de revoir Laine en uniforme.
Par désintéressement ou par incapacité à pouvoir livrer ce que Martin Saint-Louis lui demande?
J'ose pas m'aventurer parce que probablement une blessure. Là, on sentait que depuis quelques semaines, il y avait moins de puissance dans son tir. Mais le désintéressement n'est jamais trop loin non plus avec Patrick Laine. T'sais, on a le sentiment, on dit souvent qu'il ralentit le jeu, mais parfois c'est à un autre niveau. Ça devient vraiment ralenti, plus que ralenti. Puis c'est beaucoup de revirements en zone neutre, un côté nonchalant. Il ne faut pas oublier que l'an dernier, le Pascal Vincent à Columbus l'avait placé aussi dans les estrades à quelques reprises. C'est un joueur qui reste
Énigmatique.
Probablement énigmatique. Il y a un gros casse-tête pour un entraîneur. Puis la décision va être au-delà de Martin Saint-Louis aussi. Il reste une année à son contrat. Qu'est-ce que Kent Hughes, Jeff Gorton décideront faire à la fin de la saison? Ça aussi, ça va être un dossier à surveiller.
Parce que est-ce que tu veux placer ce joueur-là au centre de ta reconstruction quand tu veux donner des bonnes habitudes à tout le monde pour les 10 prochaines années? Puis tu as cet énigmatique joueur-là avec parfois le cordon qui traîne un peu beaucoup. Est-ce que c'est réellement ce que tu veux pour la prochaine année? Une année qui, bon, avec des Demidov, avec tout ce qui s'en vient, tout ça qui pourrait être... Les Canadiens peuvent viser les séries éliminatoires. Là, on parlera peut-être pas juste de mix là, l'an prochain au tournoi de golf. Là.
Non, c'est ça. Puis avec l'émergence d'Ivan Demidov, je pense que ça règle... Bon, ce serait mieux d'avoir deux joueurs d'impact sur ton deuxième trio là, sur les ailes, mais l'émergence d'Ivan Demidov donne une partie de la réponse parce qu'il peut occuper ce poste-là en avantage numérique, parce qu'il peut avoir un impact sur un deuxième trio si on va lui chercher un centre de qualité. Donc je ne sais pas ça va être quoi la décision dans le cas de Patrick Laine, mais c'est certain que ce n'est pas vraiment un modèle de fiabilité et un modèle que tu veux donner à ton jeune groupe. Là. Je ne sais pas, on n'est pas à l'intérieur du vestiaire, on ne sait pas comment il interagit avec ses coéquipiers, mais des fois... Juste son nom verbal sur la patinoire, son nom verbal sur le banc, c'est pas nécessairement ce que l'idéal,
le, bon message,
le modèle
ouais,
idéal, exactement. Mm-hmm. Fait que je pense que, tu sais, on parle beaucoup de culture du côté du Canadien depuis plusieurs années et tout ça. Je suis pas certain, tu sais, par moment cette année, surtout au début, là, Patrick Laine semblait entrer dans cette culture-là, dans cet enthousiasme-là du jeune groupe, mais là, on dirait que ça s'est effrité avec le temps, donc... Je serais pas surpris quand même que les chemins leur chemin se séparent à la fin de la saison.
Direction Washington pour la série. Bon, des joueurs en moins chez les Canadiens, pas de partisans pour aider. Dernier changement. Est-ce qu'on est de retour à Montréal pour un sixième match selon vous ou non, ça se termine mercredi?
Moi, j'ose rien prédire parce que le sixième match aurait lieu le soir de la fête de Madame Fanny. Fannito, pour ne pas la nommer.
Qui saluons-la présentement parce qu'elle fait preuve de beaucoup de présence, de patience plutôt. Elle qui s'est enfermée dans la...
pour l'équipe.
Ouais, elle qui s'est enfermée dans la chambre qui est derrière toi, JF, présentement.
Pour ne pas faire de bruit.
Plus pour ne pas être vue dans l'écran parce qu'elle n'était pas totalement satisfaite de son look ce matin pour les collègues du bureau de son amoureux. Mais je te laisse poursuivre.
Exact. Non, mais c'est ça. J'ose jamais rien prédire parce que historiquement, cette saison, le CH a montré du caractère. Quand Guillaume le disait plus tôt, quand on croit cette équipe-là morte, elle rebondit. J'ai aussi des souvenirs de la finale de la Coupe Stanley où une certaine équipe menait 3-0 puis on se disait on rentre à la maison bientôt. Finalement, on ne rentrait pas à la maison. C'est possible, c'est le but. Martin Saint-Louis disait on va partir pour Washington. On a toujours su qu'il fallait gagner au moins un match là-bas à Washington. On va partir, c'est ce qu'on va vouloir faire, prolonger cette série-là. Ça doit être le but techniquement. Ça reste difficile à atteindre. Moi, je ne serais pas surpris qu'on ferme les livres après le cinquième match.
Yep. Ouais, même chose pour moi. Je pense que la pente est abrupte du côté des Canadiens avec les éléments manquants. Je n'ai pas l'impression que c'est une équipe qui va être capable de se relever. Là, il suffit d'un but rapide des Capitals dans le cinquième match. S'il amorce le match de la même façon que le premier à Washington, avec l'énergie de la foule, avec les mises en échec et tout ça, ça va être très, très difficile de répondre coup pour coup au coup des Capitals. Puis...
Un autre élément aussi, techniquement, Protas devrait revenir au jeu du côté de Washington.
Mais... Là, ça s'en vient très énigmatique, ce dossier-là, parce que, tu sais, Protas, je pense que ça fait 4-5 jours qu'il patine avec son chandail régulier, avec l'équipe. Je pense que les Capitals, tant qu'ils sont dans le siège du conducteur, se disent peut-être, regarde, ça donne quoi de jouer un match 5, on est en avant 3-1. Si on gagne ce match-là, la prochaine série va commencer peut-être quoi, 4, 5, 6 jours plus tard, ça lui laisse une autre semaine de plus. Je pense pas qu'on va voir Protas au match numéro 5, quoique s'il embarque, les deux premiers trios vont être assez pesants.
S'il se rapprochait, là, il y a deux jours additionnels avant le cinquième match. Donc, c'est 48
heures
de plus.
Tu viens de gagner, effectivement, t'as un bel équilibre.
Est-ce que le facteur risque-récompense, c'est ce que Carberry et les Caps doivent calculer? Mais si jamais il est en une forme, on parlerait quand même d'un ajout de taille, pas juste sur le plan physique. Là. Protas a connu une superbe saison avec plus de 60 points, puis un dossier de plus 35, plus, juste regarder ses statistiques, plus c'est 40
buts,
dans
66
les plus et moins.
Points.
66 points et plus 40. Donc, ça reste un allié de luxe que les Caps pourraient acheter.
Ouais, et c'est un joueur qui ne joue pratiquement pas en avantage numérique.
Non, exact.
Donc, à 5 contre 5, les Capitals ont déjà l'avantage. Si tu ajoutes un Protas, ça va être difficile à jouer contre, pour reprendre les mots.
Tu veux peut-être lui donner un match aussi, si par exemple, ensuite, tu as une longue pause parce que la série avec la prochaine ronde pourrait partir beaucoup, tu sais, partir une semaine plus tard ou presque, là, donc peut-être lui donner un match. Mais bon, en même temps, Anthony Beauvillier joue du bon hockey dans le rôle qui a été inséré sur le premier trio. Donc, on verra bien dans le cas de Protas. Et juste pour ajouter, moi, je dirais, pour mercredi, tout va dépendre. Si ça revient à Montréal, c'est parce que les Capitals vont l'avoir laissé aller. T'sais, tout simplement, je pense pas que les Canadiens peuvent. On a parlé de miracle tantôt, mais ça va prendre une très mauvaise performance des Capitals pour permettre aux Canadiens d'aller chercher ce match-là. Mais bon, on sait
jamais. Mais des fois, c'est la nature humaine aussi de
ben
dire
oui, c'est
3-1, on est à la maison, ça va être correct, tout va bien aller. Mm-hmm. Puis de l'autre côté, tu as une équipe qui va se battre pour sa vie. Fait que les intangibles, mais si on regarde sur papier, ça va être difficile pour le Canadien.
Bien d'accord. Messieurs, avant de vous laisser aller, je veux juste qu'on aborde rapidement le sujet. Une nouvelle qui est tombée quelques minutes avant qu'on se mette à enregistrer. Mike Sullivan et les Penguins de Pittsburgh, c'est terminé. Donc, après, longtemps, là, Sullivan a quand même gagné deux Coupes Stanley en dirigeant les Penguins. Terminé pour Sullivan. Vous vous attendez à quoi pour... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Écoute, je vais juste regarder. Penguin, il était avec les Penguins depuis 2015-2016, quand il avait été promu de Wilkes-Barre Scranton. Vous vous attendez à quoi pour Sullivan par la suite? Vous attendez à quoi aussi pour les Penguins?
Ben, c'est pratiquement la fin d'une époque. Là, quand un entraîneur passe près de 10 ans derrière le banc d'une même équipe, ça reste une éternité dans la Ligue nationale. Belle feuille de route, deux Coupes Stanley avec le même... gros noyau, si on veut, le Crosby, Malkin, le temps.
Fleury.
Est-ce que... Fleury qui avait gagné. Est-ce que...
Ah non, c'est pas lui, non, c'est vrai. Il y a
non, ben, une, la première,
j'avais,
oui,
j'avais
la
2009,
deuxième,
ouais,
moins.
C'est ça.
Ouais, exact. Est-ce que les Penguins vont décider d'y aller d'une reconstruction et finalement toucher à un des trois joueurs du noyau? C'est possible avec Kyle Dubas, mais moi, ce que ça me laisse entendre aussi ou supposer, Mike Sullivan savait très bien qu'il y a plusieurs postes de disponibles. On parle d'un commun accord, une séparation à l'amiable entre les Penguins et Sullivan. Sullivan pourrait rebondir ailleurs très rapidement. Je ne pense pas qu'il va rester sans emploi trop longtemps.
Et ce qui est intéressant, c'est que outre les Penguins, Sullivan a évolué dans d'autres organisations, dans
les Bruins,
dont les Bruins et dont les Rangers, deux équipes qui, comme par hasard, sont à la recherche d'un entraîneur-chef. Sullivan, qui est originaire de Marshfield, au Massachusetts. Tu es lui, Guillaume, tu te retrouves dans ses souliers, tu reçois une offre de ces deux équipes-là. Laquelle tu choisis en ce moment?
Les Bruins représentent un grand défi, je dirais, sur papier, parce que c'est pas une équipe qui a plusieurs espoirs qui s'en viennent. C'est une équipe vieillissante, un noyau qui a été déconstruit un peu. C'est un plan à long terme. Du côté des Rangers, c'est un gros changement de culture, je pense qu'il faut que tu opères. Donc, ce sont deux défis différents. Pour Mike Sullivan, ce que je trouve intéressant, c'est avec ce divorce à l'amiable-là, ça a été quoi la discussion entre Kyle Dubas et Mike Sullivan?
Mm-hmm.
C'est ce qui lui a exposé le plan pour les prochaines années, puis il a dit, garde, on entre dans une reconstruction, puis Sullivan a dit, moi, ça ne m'intéresse pas. T'sais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit indice là-dessus sur la voie que vont emprunter les Penguins, parce que T'sais, si on est encore dans la mentalité, on essaie de profiter des dernières années de Crosby, Malkin,
Le
Tac.
Ben,
c'est ça, mais si on était encore dans cette mentalité-là, peut-être que Mike Sullivan demeure avec les Pingouins pour une autre saison, deux autres saisons, puis essaie de justement faire un genre de reset à la manière des Capitals. Mais là, ça laisse croire que peut-être qu'on lance la serviette du côté des Pingouins. Donc, est-ce que c'est le début de plusieurs décisions difficiles du côté des Pingouins? Est-ce que Crosby va terminer sa carrière là? Ça, c'est un gros dossier. Je pense que ça ouvre la porte à beaucoup de spéculations. Mais pour Mike Sullivan, ben, je suis pas très inquiet. Je pense que les portes seront ouvertes du côté de New York et de Boston. Ce sont deux défis complètement différents, mais deux défis que... T'sais, je pense que c'est un entraîneur qui aime ça, évoluer dans un grand marché, puis qui est capable de gérer des équipes avec beaucoup de talent, beaucoup d'ego, des vedettes.
Ouais.
Fait que, t'sais, je pense que c'est un bon choix pour n'importe quelle équipe qui voudrait avoir ses services derrière le banc.
J'ai hâte de voir aussi ce qu'il va être capable de faire sans avoir Sidney Crosby à ses côtés. À moins qu'il le suive, là, ça, c'est pas non plus impossible. Ce serait tout un rebondissement.
Ça venait pas à Montréal, Sidney Crosby?
Ben là, c'est l'autre possibilité aussi sur le deuxième trio. Mais c'est facile, du moins ça aide d'être entraîneur-chef quand t'as un capitaine comme Sidney Crosby. Ça t'évite beaucoup de problèmes, beaucoup de gestion d'ego, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Là, tu vas
je pense pas qu'il y a eu des problèmes à Pittsburgh, le même genre de problèmes qu'on a vu à New York.
Ben, c'est ça que j'allais dire. Là, tu arrives dans la marmite chaude à New York où visiblement le vestiaire est pas assez gros pour les égos de tout le monde.
Mais tu as peut-être plus de temps. Si tu souhaites réellement placer ton empreinte sur une équipe, tu as peut-être plus de temps à Boston qu'à New York. Je pense que les Bruins vont peut-être accepter de rentrer dans un cycle différent. Tandis que les Rangers vont avoir la pression de gagner immédiatement, de peut-être dire que l'année 2024-2025 était une erreur de parcours. Chris Drury, encore une fois, trouver une façon magique de s'acheter du temps en plaçant tout le blâme sur son entraîneur, en congédiant un autre entraîneur. Donc, puis en plus, il vient du Massachusetts. Charlie, il y a un lien aussi avec Charlie McAvoy.
A déjà été congédié par les Bruins aussi, a dirigé Bruins pendant deux saisons en 2003
mais
puis 2000.
Ça pourrait représenter un scénario assez facile, un retour avec les Bruins de Boston.
Oui, ben écoute, ça serait comme à Montréal. On ramène nos entraîneurs de temps en temps. Donc, c'est nos entraîneurs locaux. Donc, ça serait une possibilité. Surtout, ben écoute, les Bruins, il y a quand même deux, trois, justement, tu as parlé de McAvoy, de Pasternak. C'est pas une reconstruction à partir de zéro.
Non, il y a quand même des éléments. Il y a Jeremy Swayman aussi en place devant le filet. Là.
Mais tu as Don Sweeney puis, comme directeur général qui a un peu les mêmes caractéristiques que Chris
Drury.
C'est
ça. C'est deux directions qui ont les mains longues, là, qui se mêlent beaucoup des décisions en bas, j'ai l'impression. Fait que, mais un entraîneur d'expérience, ça peut justement permettre de tracer la ligne entre la direction puis l'équipe.
Oui, exactement. Donc, on va surveiller ce qui va arriver avec Sidney Crosby parce que ça va être ça la question. Il contrat de 2 ans qui s'amorce à partir de l'an prochain. Donc, est-ce qu'il va décider de rester là? Et surtout, qu'est-ce que tu vas avoir pour Sidney Crosby, pour un Sidney Crosby qui déciderait de sa destination? On a vu les cas Patrick Kane, on a vu d'autres cas cette année où quand un joueur a le contrôle sur sa destination, ben tu peux pas mal moins obtenir en retour. Donc, c'est de voir ce que les Pingouins vont faire. On va suivre tout ça dans les prochains mois parce que ça va se décider. Ça va être tout au long de l'été et jusqu'au début de la saison prochaine. GF, Guillaume, merci d'avoir été là. On va se reparler à la fin de la série ou en tout cas, on verra là, au niveau des Canadiens quand est-ce que ça se termine. On va se parler pour le prochain balado. Donc, chers auditeurs, comme je dis toujours, abonnez-vous, suivez-nous pour être certain de ne rien rater. Un gros merci les boys et à la prochaine.
Ça fait plaisir.
À bientôt.
Alors, on poursuit cet épisode en parlant d'une autre série qui nous intéresse, celle entre les Sénateurs d'Ottawa et les Maple Leafs de Toronto. Les Sénateurs qui ont évité l'élimination en l'emportant en prolongation, c'était samedi, mais bon, soyons francs, les Maple Leafs sont encore bien installés dans le siège du conducteur avec une avance de 3-1. Pour la série qui se poursuit mardi du côté de Toronto. Donc, pour discuter de tout ça, ben, on l'accueille avec nous. Il est journaliste au quotidien Le Droit dans la belle région de Gatineau, de l'Outaouais. Zachary Mercier. Bonjour, Zachary.
Salut, Nicolas, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Ça va super bien. Écoute, du hockey de série, on prend ça tout le temps.
Eh oui, oui, oui. Surtout qu'Ottawa, vous n'avez pas vécu ça depuis une couple d'années. Hein? J'imagine que la frénésie se faisait sentir dans les deux derniers matchs au Centre canadien Tire.
Oui, vraiment. Là, surtout le premier, ça a été une ambiance comme j'ai jamais vu. J'en ai vu quelques-uns des matchs de séries éliminatoires en grandissant, justement. Aller voir ça avec des amis, des coéquipiers de hockey mineur, etc. Mais là, c'était un autre niveau. Là, vraiment, les gens, ça faisait 8 ans qu'ils attendaient ça. Ça faisait au-dessus de 2000 jours. Là, je crois qu'ils n'avaient pas eu de match de série au Centre canadien Tire. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez spécial à vivre. Puis, écoute, malheureusement, le premier match est décidé en prolongation, pas tombé du côté des Sénateurs pour les partisans. Mais le deuxième, finalement, la foule était un peu plus mitigé. Là. C'est à peu près 50-50 les partisans entre les
Chandails bleus. Ouais, c'est bleu. Ça, ouais.
C'est mais ça. Le premier match avait été à peu près 85-15 ou 90-10. Là. Donc vraiment, là, du côté des Sénateurs, donc ça a été une réussite d'un peu les stratégies mises en place pour la vente de billets, la revente. Là. Donc peut-être moins du côté du deuxième, peut-être certains partisans qui ont abdiqué et qui ont dit on va essayer de faire quelques bidous en revendant les billets. Mais quand même, ça a été toute une ambiance là, dans l'ordre des deux matchs.
C'est tout un défi à Ottawa de vendre les billets. Ben, c'est parce que Canada, t'es presque rendu à Toronto, hein, tellement t'es loin du centre-ville. Les partisans de Toronto n'ont pas de problème à monter. Mais t'amènes un point intéressant, tu dis à quel point il y avait de l'ambiance, tout ça. Je te parle autant pour ce match-là que pour la série au complet, le début de la série. Est-ce que c'est une jeune équipe, les Sénateurs, il n'y a pas d'expérience ou si peu en séries éliminatoires? Est-ce qu'on a été un peu impressionné par l'ampleur de ce que c'est le hockey de séries éliminatoires? Ce qui explique peut-être pourquoi on est tombé 3-0 en retard dans la série.
Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'au début, surtout le premier match, là, on s'est peut-être laissé emporter. L'indiscipline a été la cause de ce match-là. Parce que à 5 contre 5, je trouve que les Sénateurs ont disputé une excellente série. Ça a été vraiment sur les unités spéciales où est-ce que ça s'est plus ou moins gâché, là. Surtout lors des deux premiers matchs, ça coûtait très, très cher. Puis la grosse machine des Maple Leafs en avantage numérique, lorsque tu analyses un peu les 5 joueurs qui sont sur la patinoire, il n'y a pas grand, y a pas beaucoup d'équipes, là, qui peuvent rivaliser avec ça. Puis une fois que, justement, ils réussissent à en marquer un, à en marquer deux, ont quand même marqué 4 buts en 38 secondes dans leurs premiers avantages numériques. Dans les deux premiers matchs, ils ont marqué 4-7 en avantages numériques. Les 4 buts ont été marqués en 38 secondes total. Donc, quand même, lorsque ça te fait penser deux fois, justement, puis ça permet des fois d'aller un peu sur le frein. Là, au début, tu es peut-être, on dit, on veut jouer physique, si, ça, on veut vraiment amener un style de jeu de série. Mais par la suite, on est peut-être un peu plus sur les freins, là, de justement, on le sait que dès qu'il y a une punition, écoute, ça se peut que ce soit pas long puis ça va se retrouver dans notre filet. Donc, peut-être un peu manque d'inexpérience lors des deux premiers matchs. Je pense que depuis qu'on est revenu à Ottawa, on a vu une équipe beaucoup plus calme, beaucoup plus prête dans les grands moments. On a échappé, comme j'ai dit, le match numéro 3 en prolongation sur une petite erreur en entrée territoire, mais quand même, on a réussi finalement à demeurer en vie. Puis on le sait que les Maple Leafs ont un historique aussi de peut-être, de justement, là, d'échapper certaines avances. Donc je pense que l'important, c'était vraiment d'en gagner un, de retourner à Toronto, puis par la suite, ben écoute, comme tous les joueurs le disent, tout est possible à partir d'aujourd'hui.
Ça aurait été plate que la bataille de l'Ontario se termine en 4 matchs, un balayage. Je pense que tout le monde mérite un peu plus que ça. Tu sais, les amateurs de hockey au complet en Ontario, puis peu importe les amateurs, point. 2 jours de pause maintenant pour les équipes. Bon, ce match-là, justement, tu parlais des unités spéciales. Les Maple Leafs n'ont pas marqué un avantage numérique en 4 occasions dans le 4e match. C'est Jake Sanderson qui donne la victoire en prolongation. Parle-moi un peu de Sanderson. C'est un défenseur rapidement et sûrement a fait sa place à la ligne bleue. Tu as tassé rapidement Thomas Chabot du premier avantage numérique. Participe à la confrontation des 4 nations. Ce gars-là est en train de devenir. Tu sais, on parle beaucoup de Brady Tkachuk, de Tim Stutzel, de nommez-les, de tout ce noyau-là de jeunes qui ont monté à Ottawa. Mais Jake Sanderson, son impact dans cette série-là pour les Sénateurs?
Énorme, énorme. C'est la pierre angulaire de cette équipe-là en série depuis le début des séries, vraiment. Écoute, lors du dernier match, plus de 30 minutes de jeu, il est sur la patinoire dans toutes les situations. Avantage numérique, désavantage numérique, fin de rencontre, dès qu'il y a un moment important, une mise au jeu importante, n'importe quel. Aussitôt qu'il y a un moment important ou qu'il y a quelque chose, il est sur la patinoire. Donc vraiment, il est justement match-up avec les meilleurs trios adverses. On est là, c'est vraiment incroyable ce qu'il réussit à faire. Surtout, il n'est pas vieux, là. Début vingtaine, 22 ans. Donc, c'est quand même assez jeune pour un défenseur qui arrive là, qui pour un rôle de numéro 1 à 22 ans. C'est assez impressionnant ce qu'il réussit à accomplir. Puis si on ramène un peu plus loin aussi au repêchage, il y a bien des gens qui sourcillaient un peu lorsque les Sénateurs l'ont repêché parce qu'on se disait un autre défenseur défenseur gaucher offensif. On disait, on a déjà un Thomas Chabot, pourquoi pas aller du côté d'un Jamie Drysdale ou d'un défenseur droitier à ce moment-là? Finalement, je pense qu'aujourd'hui, les partisans des Sénateurs sont bien, bien contents de pouvoir compter sur un Jake Sanderson, sur tout un duo avec Chabot-Sanderson. Ça enlève beaucoup de pression, un et l'autre, ça enlève de la pression mutuellement. Donc, vraiment incroyable ce qu'il réussit à démontrer. Puis cette année, sa progression, je pense qu'il a fait ouvrir les yeux à toute la Ligue nationale. Mm-hmm. Puis je serais vraiment pas surpris. Là, oui, on a les Quinn Hughes, Cal McCarr de ce monde qui vont probablement être des finalistes au Norris pour les 10 prochaines années encore. Mais si, je serais pas surpris que d'ici les 5 prochaines années, ils réussissent peut-être à s'immiscer parmi les finalistes. Puis à tout le monde avoir une solide candidature potentiellement parce que ce qu'ils réussissent à accomplir dans les deux sens de la patinoire, c'est tout à fait exceptionnel.
Un autre jeune qui émerge, il est dans l'autre équipe, par contre, Matthew Knies. T'sais, les Maple Leafs, c'était une équipe au fil des années. Quand on arrivait à ces éliminatoires, c'était le noyau de 4 vétérans. Puis tu sais, avec ce qui est arrivé, la pandémie, puis tout ça, le plafond qui n'a pas monté, j'ai toujours senti que cette équipe-là, elle avait été bâtie avec une optique que le plafond, on allait avoir 10, 12, 15 millions de plus pour s'amuser avec de la profondeur qu'on n'a jamais vraiment pu amener à Toronto. Bien là, on l'a développé, la profondeur, avec l'arrivée de Matthew Knies qu'on a repêché, qu'on a développé dans cette série-là. Il est sur le premier trio, il est sur l'avantage numérique. C'est un joueur qui est un des, j'ai le goût de dire, révélations en séries éliminatoires. Il y a quoi? Il y a 3 buts jusqu'à présent. C'est un des meilleurs marqueurs, c'est un meilleur marqueur de Toronto au niveau but pur. Parle-moi un peu de lui. À quel point tu penses que ce joueur-là, si les Maple Leafs continuent d'aller loin, un Matthew Knies... C'est une pierre angulaire dans ta production secondaire, là, ce qu'on appelle.
Ouais, dans ton échiquier aussi, ouais. Un peu salarial, malgré que là, il va signer assurément un très lucratif contrat au cours de la prochaine été.
Tu parlais de Bidou tantôt, là, ça c'est sûr que lui, ça va augmenter. Il va pouvoir vendre sa vieille Tercel.
Exactement, il va pouvoir arriver à l'aréna, là, peut-être dans un nouveau véhicule neuf, là, mais c'est oui, il est grand, il est gros, il est fort. Tout un choix des Maple Leafs en fin de première ronde. Là. Écoute, ça a été un solide vol pour Matthew Knies, là, donc c'est tout un joueur de hockey puis qui complète bien, je trouve, les joueurs justement qui, lorsqu'on peut le mettre avec un peu n'importe qui, là, apporte justement cette vitesse capable d'aller récupérer des rondelles dans les coins de patinoire, capable de rediriger ça à ses coéquipiers aussi. Donc, depuis le début de la série, c'est un des joueurs les plus constants. Sinon, c'est pas le plus constant, peut-être du côté des Maple Leafs, a eu son impact. Puis on se concentre beaucoup sur les gros canons, mais justement, ça libère un peu Matthew Knies qui en a profité justement avec son but lors d'un échappé, là, lors du match numéro 3. Ça a été toute une fin de Valinus sur le marque, mais vraiment, c'est tout un joueur de hockey. Puis je m'attends justement à ce qu'il devienne simplement de mieux en mieux en série. Il est bâti pour les séries, Matthew.
Oui, c'est ça, exactement. Puis ça crée de l'espace, tu sais, pour des joueurs plus de finesse. C'est tout de Matthews en série. Mitch Marner, on a souvent critiqué leur performance. Puis là, soudainement, les gars produisent, en particulier Marner et un qui produit, Nylander aussi. Nylander, c'est cette année, c'est son, en bon français, le coming out party. Il a terminé deuxième buteur de la Ligue. On n'avait pas vraiment ça sur le radar. Même j'ai dû voir quand j'ai lu ça, j'ai dit, pour vrai, deuxième. J'avais Draisaitl très haut, mais ah oui, Nylander. Encore là, les deux, Marner et Nylander. T'arrives avec ce type de Knies-là qui crée de l'espace. C'est vraiment ce qui manquait au sénateur. Faudra voir bon comment ça va se poursuivre. Tu utilises un Pontus Holberg sur le deuxième trio, un Max Domi comme on a fait plus tôt. Il y a beaucoup, il y a cet aspect poids-là qu'on vient. Je pense que les combinaisons sont peut-être plus intéressantes. L'autre point intéressant, c'est derrière le banc. Craig Berube, as-tu l'impression que c'est par rapport aux années Sheldon Keefe puis les autres qui sont passés avant, as-tu l'impression qu'il y a une différence cette année avec la présence, le calme, qui il est, on le sait. Monsieur Berube, on l'appelle monsieur. Hein? À quel point cet entraîneur-là a changé la dynamique à Toronto qui fait que peut-être qu'on peut passer à plus que la première ronde dans Toronto?
Oui, puis vraiment, il a une prestance aussi, le monsieur. Comme on l'a dit, lorsqu'il arrive dans les points de presse, là, grand, gros monsieur, il est fait carré. Là. Exactement, moi, à 5 pieds 7, là, je dirais que je me sens petit dans mes culottes, pas mal à côté de lui quand il se présente. Mais vraiment,
il doit avoir les maillots aussi, là, au bout des les mains, là,
ouais,
les gros points.
Oui, ouais, écoute, il y a des gants d'hockey. D'après moi, il les a pas enlevés quand il a pris sa retraite parce qu'il les a encore dans les mains. Mais vraiment, je pense qu'il a apporté aussi un aspect de calme, d'expérience qu'il n'y avait pas dans l'ancien régime. On le sait, là, on a tous vu peut-être, là, si vous ne l'avez pas vu à la maison, d'aller voir les vidéos avec Marc Savard sur le banc, oui. Les réactions du coach adjoint, justement, qui, lors du premier match, s'emballe dès le premier but. Puis Craig Berube lui fait signe, hey, comme c'est un but, il n'y a rien d'accompli du tout. Puis là, par la suite, depuis le reste de la série, très calme, célèbre très modestement Marc Savard, justement. Donc, ça, je trouve que ça, c'est une belle image qui décrit un peu l'ambiance chez les Maple Leafs, où est-ce que un but, un match, n'importe quoi, il n'y a rien qui est pris pour acquis. On tourne la page rapidement. On sent qu'il y a un calme puis une expérience qu'on a rarement vue, qu'il n'y a aucune panique du côté des Leafs. Assurément que de prendre une avance 3-0, ça aide certainement au calme. Mais là, je pense qu'on va vraiment le voir dès mardi pour le match, de quel bois cette équipe-là se chauffe dans les grands moments où est-ce que tu es à la maison, tu as la chance de fermer cette série-là. Je pense que tu ne peux pas te permettre de l'échapper parce qu'une fois que tu vas revenir à Ottawa, écoute, ça va être très difficile avec les partisans qui vont se mettre derrière les sénateurs puis le doute qui va s'installer. Donc, si les Maple Leafs veulent démontrer de quel bois ils se chauffent, ça va se passer mardi soir.
Vois-tu ça même presque comme un positif, cette défaite-là, dans le quatrième match?
Je pense que oui, je pense que ça va peut-être leur permettre de ramener un peu, pas les pieds sur terre, mais que rien pour acquis un peu. Puis ça a été tellement chaudement disputé, les Maple Leafs auraient très bien pu remporter ce match-là. Je pense que simplement, pas un petit wake-up call, mais simplement de dire, regarde, on va faire face à de l'adversité, on va en passer des matchs, on va en échapper des rencontres. Je pense que ça va être un peu ça, puis je pense que ça peut simplement les bénéficier. Mais encore une fois, ça va être de voir à quel point ils vont pouvoir gérer un peu la pression mentale qui va venir un peu avec l'historique, malgré que c'est ce nouvel entraîneur, il y a des nouveaux joueurs aussi roulement, mais le noyau fort est quand même le même. Donc, voyons voir comment eux vont réagir à Toronto devant leurs partisans avec une occasion de passer au deuxième tour. Aussi rapidement que ça, on n'a pas vu ça depuis, je ne sais même pas quelle année, je n'étais peut-être même pas né.
T'étais, ouais, c'est vrai, t'as quoi, t'as 22, 23?
24 ans, donc.
24 ans, c'est ça.
La dernière bataille de l'Ontario, c'était en 2004.
T'étais tout petit,
j'ai juste vu les reprises de Travis Green qui pointent le banc des sénateurs.
C'est ça. C'est vrai, il était de l'autre côté, Travis Green, à l'époque. Hein, donc, non, ça fait longtemps. Ben, gars, justement, je te lance des statistiques qui remontent un peu dans le temps. Depuis 20 ans, ou même, je vais dire peut-être plus l'époque récente, parce que 20 ans, c'était une autre époque. L'époque Matt Sundin et nommé-les là, du côté de Toronto. Mais dans l'époque récente, là, les Maple Leafs sont 1-12 dans les matchs où on peut terminer une série. Mais à l'inverse, dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey, il y a seulement quatre équipes, qui ont réussi à effacer un déficit de 3-0 pour gagner une série. Quand tu analyses ces deux chiffres-là, quand tu regardes la manière que Toronto joue présentement, qu'est-ce que les sénateurs doivent, est-ce qu'ils peuvent réussir, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire pour revenir dans cette série-là?
Ça va être très difficile. Sincèrement, là, les Maple Leafs, de la façon qu'ils jouent, ils donnent absolument rien. En fait, les deux équipes ne se donnent pas grand-chose, mais on sent que, justement, dès qu'on a une opportunité du côté des Leafs, on est capable de capitaliser, ce qui est un peu moins le cas du côté des sénateurs, avec Stolarz, qui est tout un gardien de but, sincèrement.
C'est surprenant, parce qu'il sort de nulle part, là, Stolarz. Mais c'est l'histoire de tellement de gardiens depuis quelques années dans la Ligue nationale où il y en a un qui émerge au bon moment, au bon endroit. Il était deuxième, troisième dans son équipe. T'sais, regarde Seattle, Joey Dacord. Il était à Ottawa il n'y a pas longtemps, puis personne ne s'excitait pour Joey. Là.
J'ai vu son premier match en plus. J'étais là, il a joué un match, j'étais là à Ottawa, puis il avait disputé. Mais je pense que les sénateurs l'aimaient, mais c'est simplement un repêchage d'expansion. Ouais, parce que s'il n'avait pas joué ce match-là, les sénateurs auraient pu retenir ses droits, mais c'est ce match-là qui a fait en sorte comme quoi il est devenu admissible. Bref, ça a été un contact, mais exactement, un Samuel Montembeau, un Jordan Bennington, les exemples sont grands là, dans la Ligue nationale, puis il fait la différence jusqu'à maintenant, Stolarz, tellement une bonne pièce d'homme lui aussi. Là, on parlait de Greg Berube, mais lui, je pense que les sénateurs vraiment vont devoir trouver une façon, on essaie de le déranger dans la période d'échauffement, peut-être pas ça coûtait cher aussi aux sénateurs, mais je pense qu'il va falloir trouver une façon un peu de réussir à entrer dans l'enclave. La défensive est tellement étanche du côté des Leafs, on n'aura pas le choix de devoir aller jouer dans le trafic puis se sacrifier parce que les Maple Leafs vont pas te la donner la victoire certainement. Ils se battront pas eux-mêmes cette année. Je pense que ça a été un peu ça souvent dans les dernières années. Cette année, il semble être différent, qu'ils ne se battront pas eux-mêmes. Donc, les sénateurs devront tout faire pour justement aller rentrer à l'intérieur des points de mise au jeu, créer des opportunités et des cycles offensifs. Je pense que c'est ça qu'on a eu beaucoup de difficultés, outre un avantage numérique à certaines occasions. C'est vraiment ça qu'on se doit d'aller produire plus offensivement et d'aller déranger. On a simplement marqué, on a un match qu'on a marqué plus que deux buts. Ça a été lors du dernier match qu'on a réussi à la remporter. Donc, je pense que la formule est simple. On se doit d'aller trouver le fond du filet au moins à trois reprises pour se donner une chance parce que écoute, sinon, la grosse machine des Maple Leafs, elle va être difficile à arrêter.
Est-ce que tu croyais aux Sénateurs avant la série? Et là, aujourd'hui, est-ce que tu crois que c'est possible ou c'est une trop grosse commande parce qu'on est tombé en retard 3-0 dans la série?
J'y croyais au début, sincèrement. Je pense que les Sénateurs avaient quelque chose aussi de spécial. J'avais hâte de voir de quelle façon les Leafs allaient réagir. Si tu m'avais demandé après le premier match, est-ce que je suis toujours aussi confiant, je t'aurais probablement répondu non. Parce que justement, la façon que les Leafs sont sortis, qui ont été capables de capitaliser, puis on a senti que le vibe était différent. Mais j'y croyais toujours. Mais ça demeure qu'il y a eu 3 des 4 matchs qui sont terminés en période de prolongation.
Ouais, c'est ça.
Donc, la série pourrait être complètement 3 à l'inverse. Là. Donc, avec ces matchs-là, je crois que ça va être extrêmement difficile. Puis j'ai très peu d'espoir, justement, surtout dans une jeune équipe. On est une équipe expérimentée du côté des Leafs. Je pense pas qu'on va l'échapper cette fois-ci. Mais encore une fois, c'est de l'expérience en or pour cette jeune formation-là, qu'on a plusieurs joueurs du noyau qui sont à leur premier match. C'était la majorité, c'était plus que la moitié de l'équipe qui avait aucun match d'expérience en séries éliminatoires. Donc, vraiment, c'est une période d'apprentissage. Mais ça va être compliqué. Puis, est-ce que tout est possible? Assurément. Mais j'ai mes doutes, là, on dirait, avec dans le vestiaire, quand on entend les joueurs parler un peu, tout ça, je me dis, est-ce qu'on doit y croire? Mais est-ce qu'on y croit vraiment à 100% qu'on est capable de renverser la grosse machine des Leafs? Surtout, je pense que les vétérans le savent. On a un Claude Giroux qui l'a fait. Il a remonté 0-3 avec les Flyers. Mais j'ai bien hâte de voir de quelle façon on va réagir. Je pense que c'est pas compliqué le match de mardi. Là, on dit toujours que le prochain est le plus important, mais celui-là est véritablement important parce que si on réussit à revenir à Ottawa, là, je pense que là, sincèrement, tout est possible parce qu'une fois que l'énergie de la foule, tout ça, l'ambiance, l'espoir remonte, le doute se crée de l'autre côté. Mais si les Leafs veulent passer au prochain tour, ça va se passer mardi soir parce que sinon, ça se pourrait qu'on revienne pour un match 7.
Oui, si Maple Leafs l'emporte dans le prochain match. La série toute floridienne, ça se peut que ça soit long, ça se peut que ça soit rude. Est-ce que tu commences à y croire aux Maple Leafs? Parce que c'est une équipe qu'on sous-estime. Ben, on n'a pas le choix de les sous-estimer. C'est une équipe qui fait rire tout le monde un peu à cause de ses déboires depuis tellement d'années. Puis c'est facile dans ce temps-là de l'oublier qu'il y a du talent dans cette équipe-là. Puis ça pourrait peut-être juste cette étincelle, l'étincelle, est-ce que c'est Greg Berube? Mais si c'est le scénario que je t'ai décrit, soudainement, est-ce que tu considères que les Maple Leafs, champions de la section atlantique, et on ne devrait pas les sous-estimer comme on devrait faire? Tu penses qu'ils sont capables d'aller très loin, peut-être même jusqu'au bout?
Moi, je pense que oui, sincèrement. Si on réussit à plus à terminer la série rapidement, à réussir à garder ses armes, garder ses munitions, garder son énergie aussi, contrairement à la bataille de la Floride, que justement, ça joue du hockey très, très physique, très solide. Donc, je m'attends à ce que les Leafs puissent réussir à fermer les livres rapidement pour se donner les meilleures chances. Puis, on l'a dit, là, c'est une équipe différente qui ont peut-être sacrifié à certains moments un peu d'offensive durant la saison. Les petits détails, Austin Matthews, qui est peut-être pas le joueur le plus flamboyant présentement sur la patinoire avec ses prouesses offensives, très efficace dans les deux centres, mm-hmm. est utilisé en désavantage numérique aussi. Donc, on sent qu'il y a un commitment, un engagement différent du côté des joueurs des Maple Leafs et ça pourrait les permettre d'aller et de se rendre peut-être jusqu'au bout. Sincèrement, à ce point-ci, quand on regarde les différents affrontements de la Ligue nationale, bien dur de prédire. Les séries qu'on considérait peut-être pas faciles, mais que certaines équipes, mais écoute, on a vu les Vegas tirer de l'arrière face au Wild, que certains voyaient Vegas marcher jusqu'au deuxième tour. Les Canadiens de Montréal donnent la retarde beaucoup aux Capitals de Washington. Bref, il n'y a pas une série qui est facile. Donc, par la suite, si on réussit à économiser nos énergies, je verrais assurément les Leafs pouvoir faire un bout. Puis ça fait quand même quelques années que dans mes prédictions entre amis, j'ai choisi les Maple Leafs. L'an dernier, j'ai choisi les Oilers. Cette année, je m'en veux peut-être de ne pas avoir retourné du côté des Leafs parce que, sincèrement, de les voir en personne, c'est toute une machine de hockey. Puis je pense qu'ils sont équipés pour veiller tard pour vrai cette fois-ci.
Mais on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de
certainement pas
à Toronto. J'espère qu'on l'a compris. Zachary, merci beaucoup d'avoir été sur le balado ce matin.
Merci beaucoup à toi.
On te souhaite un bon voyage à Toronto, aller couvrir le cinquième match de la série. Mardi, les gens vont pouvoir lire ça dans le droit dans les minutes, heures qui vont suivre.
Très certainement. Merci beaucoup.
Toujours merci, Zachary. Alors voilà, c'est ainsi que prend fin cet épisode de la Tasse de Café. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Prochain épisode, ben on ne sait pas exactement ça va être quand. Ça va dépendre de le déroulement de la série des Canadiens. Donc abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux de la Ligue nationale de hockey. Suivez-nous aussi, abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute préférées. Comme ça, vous êtes certain d'avoir un petit avertissement, peu importe selon laquelle ça fonctionne, lorsqu'il y a un nouvel épisode de disponible. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.